Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, pourquoi durent les dictatures? Nous retrouvons Souhair Belhassen, présidente d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme et ancienne directrice de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et Michel Tereshchenko, philosophe et universitaire, dont les travaux portent notamment sur les phénomènes de soumission à l'autorité, de conformisme de groupe ou de passivité face à des situations de détresse. Michel Tereshchenko, qu'est-ce qui caractérise une société démocratique?
Ce qui caractérise une société démocratique, c'est, en tout cas une société démocratique libérale, c'est que c'est essentiellement le monde de la pluralité. Où il n'y a pas d'identité, si vous voulez, qui soit véritablement définie pour chaque individu par rapport, par exemple, à la croyance, par rapport à la religion, etc. Et il y a une crainte, évidemment, je pense, extrêmement profonde, si vous voulez, vis-à-vis de ces sociétés qui sont réactives, disons, vis-à-vis de ce modèle de la pluralité, de l'ouverture, d'une conception radicalement différente de l'identité. Une des questions absolument fondamentales, c'est qu'est-ce qui constitue l'identité individuelle? En gros, pour les communautariens, ce qui constitue l'identité individuelle, c'est l'appartenance à des communautés, alors que l'individu libéral, c'est un individu qui se définit essentiellement par son autonomie, par sa capacité de penser par lui-même, par le choix de sa propre vie sur lequel l'État n'a pas de prise, donc l'État est neutre, l'État est indifférent, etc. Autrement dit, si je reprenais une catégorie classique, par exemple, de l'opposition entre la liberté des anciens et la liberté des modernes, la liberté des anciens, c'est la participation des citoyens aux affaires publiques, mais il n'y a absolument aucune liberté individuelle. Par exemple en matière religieuse. Alors que la liberté des modernes, c'est au contraire l'indépendance, la garantie des droits individuels, etc. On sent bien que dans ces sociétés-là, il y a une crise fondamentale vis-à-vis de la tradition et de ce qui constitue effectivement l'identité. Or, les sociétés libérales sont fondées sur une certaine conception d'un individu qui a des droits, qui doit pouvoir mener sa vie comme il l'entend. Mais pour d'autres sociétés, je pense qu'ils perçoivent ça comme étant totalement destructeurs, hein, comme la destruction de toutes leurs racines, de toute leur histoire, comme des forces de destruction de la communauté nationale. Alors en plus, la communauté nationale est ensuite reconstruite par des idéologies plus ou moins factices, naturellement, comme toutes les idéologies. Mais je pense qu'il y a une crainte, si vous voulez, extrêmement forte, et une incapacité à entrer dans ce modèle démocratique qui est si complexe et qui est si particulier. La démocratie libérale, c'est un système extrêmement complexe. Et qui, je crois, en effet, est difficile.
Et c'est pour cela aussi qu'il est si compliqué et que cela prend tant de temps d'en sortir. Et à ce propos, j'aimerais qu'on approfondisse une question sur Belhassen. Pourquoi durent les dictatures? Il y a évidemment le terreau intérieur, hein, dans le cercle intérieur. Et puis la vision de l'étranger, c'est-à-dire le regard qui est porté avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le plan intérieur, cette complicité, mais qui se joue aussi sur l'extérieur. Oui. Et c'est ce qui permet de faire perdurer ce type de système. Je me trompe?
Non, pas du tout. Non, je voudrais remercier M. Tereshchenko sur ce qu'il vient de dire, parce qu'on est au cœur du débat. C'est réellement une question de temporalité. On est avec Ennahda, outre le fait qu'on veut une prise de tout le pouvoir, comme ça a toujours existé en Tunisie, mais il y a cette dimension religieuse qui fait partie de l'identité du Tunisien. Et quand vous avez parlé de l'État indifférent, c'est ça ce qu'on veut atteindre. L'universalité, c'est l'État indifférent. Or, on est loin de l'atteindre. Et je voudrais quand même mettre une note de bas de page d'optimisme. Il y a eu, entre la proposition de constitution tunisienne de juin 2013 et celle qui a été votée en février 2013, c'est-à-dire pendant les 8 mois, il y a eu une véritable révolution par rapport au texte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on proposait une constitution théocratique et dictatoriale, avec la complémentarité entre les hommes et les femmes, pas de liberté de conscience. Aujourd'hui, la constitution comporte évidemment un article sur le respect de la liberté de conscience. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Donc, Ennahda évolue dans un environnement naturel arabo-musulman qui lui permet de se développer, et dans un contexte international. Le contexte international est extrêmement favorable, et c'est un des éléments qui fait que Ennahda a pris le pouvoir, parce qu'il y a eu non seulement une assistance logistique, mais aussi financière. Et les golfiers, les États golfiers en particulier le Qatar, a financé cette campagne électorale d'Ennahdha. Donc, il y a une solidarité aujourd'hui de l'international islamiste à laquelle la Tunisie n'échappe pas, malgré ses particularités. Bien que l'opposition elle est divisée, qu'il y a aujourd'hui réellement une guerre d'égo, etc., il y a une société civile structurée autour de la centrale syndicale ouvrière, l'UGTT, qui est la colonne vertébrale de cette société civile extrêmement réactive et qui a fait que la Constitution, elle est à la fois islamiste et universaliste. Elle est ces deux Tunisies. Alors, qui va l'emporter aujourd'hui? Le contexte international n'est pas favorable. Je vais parler du Golfe, mais aussi les pays occidentaux ont leurs responsabilités qui viennent dire régulièrement il y a un islamisme modéré. Moi, je ne le connais pas. Il n'y a pas d'islamisme modéré. Aujourd'hui, il y a 600 jardins d'enfants où les petites filles portent le hijab. Les petites filles de 3 ans portent le hijab. C'est impensable en Tunisie. C'est une colonisation des pays du Golfe, du wahhabisme, de l'Arabie Saoudite. Mais ça, on ne le dit pas. Parce que c'est le même environnement, parce que c'est arabo-islamique et qu'on ne touche pas à cela. Y compris les pays occidentaux qui ménagent cette ère arabo-musulmane en disant « Pourvu qu'il n'y ait pas de djihadisme, les islamistes, on en fait notre affaire. »
Michel Terechenko.
Quand même, on est un peu exigeant parce qu'on demande que les choses se passent très vite. On oublie quand même que tout cela prend en effet du temps et qu'il y a aussi le rôle de l'histoire et que ce sont des sociétés qui sont des sociétés qui évoluent. Par exemple, pour la question de l'islam, ou si je fais une comparaison avec ce qui s'est passé en Europe, les sociétés libérales, les démocraties libérales, quelle a été leur origine? Ça a d'abord été la réforme. Et ça, ça a été un rôle tout à fait fondamental, effectivement, dans l'émergence de la liberté de conscience, de la liberté de pensée, etc., dans des sociétés qui devenaient pluralistes. Donc le protestantisme a constitué un moment tout à fait capital. Alors évidemment, les situations ne sont pas du tout les mêmes, parce que l'Église catholique n'est pas du tout évidemment comparable aux structures religieuses de l'islam. Mais enfin, d'une certaine manière, on pourrait attendre effectivement de l'islam qu'il y ait quelque chose de comparable à la réforme protestante. Et là, qui introduirait effectivement des éléments de pluralité, de tolérance, etc. Seulement, combien de temps ça a mis chez nous? Ça a pris quand même des décennies, voire des siècles, n'est-ce pas? Et je voudrais dire une chose qui est, je crois, tout à fait fondamentale sur la question des dictatures, par exemple, ou de l'évolution des sociétés. Il ne faut pas prendre, je crois, les sociétés à un moment T de l'histoire. Il faut les prendre dans une vision historique plus large, mais en fait, il faut envisager. La question qu'il faut poser, c'est quelle est la dynamique qui est à l'œuvre dans ces sociétés? La question n'est pas la même si vous dites quelle est la dynamique qui est à l'œuvre en Iran? Est-ce qu'il y a une dynamique en œuvre en Iran? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une dynamique à l'œuvre en Corée du Nord? Certainement beaucoup moins. Est-ce qu'il y a une dynamique à l'œuvre en Tunisie? Oui. Est-ce qu'il y a une dynamique à l'œuvre en Égypte? Oui. Est-ce qu'il y a une dynamique à l'œuvre en Russie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une dynamique à l'œuvre en Chine? Oui. Ce sont tous des régimes qui sont des régimes autoritaires sur certains aspects, en tout cas qui ne sont pas conformes. Mais la question qu'ils font poser et qui les distingue, donc c'est pas entre démocratie et dictature, mais entre des régimes autoritaires avec des aspects plus ou moins dictatoriaux. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais qui est une question de savoir, mais quelle est la dynamique? Et au fond, vous répondez, en Tunisie, vous pouvez justifier votre optimisme parce qu'il y a une dynamique. Vous ne pouvez pas avoir le même optimisme probablement vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc c'est une question de dynamique. Or la dynamique introduit bien évidemment la considération temporelle et donc le temps, tout simplement, qu'il faut.
Alors dynamique, mais pour retomber sur les pieds de la Tunisie, Souhair Belhassen, elle semblait faire la Tunisie bonne figure hein, par rapport aux autres pays du printemps arabe. Et vous dites-vous, si j'ai bien compris votre propos, que d'une certaine manière, elle est en train de refaire le lit de la dictature, donc un optimisme tout de même assez limité.
Écoutez, si vous le comparez à l'Égypte, par exemple, et vraiment l'Égypte a joué un rôle pour son malheur, mais pour le bonheur de la Tunisie, il y a eu un contre-choc. C'est-à-dire que le parti islamiste Ennahdha a abandonné le gouvernement, mais pas le pouvoir, parce que il y a eu le coup d'État en Égypte. Il y a coup d'État. Pour moi, la reprise en main par les militaires de tout le pouvoir aujourd'hui, c'est un retour en arrière. Et si vous comparez l'Égypte et la Tunisie est bien mieux placée pour aujourd'hui remettre en cause la dictature, alors qu'elle revient à grands pas en Égypte. Et par crainte de se voir mettre en prison ou condamné à mort, comme on l'a vu de façon tragique en Égypte, les islamistes tunisiens ont préféré quitter le gouvernement, mais pas le pouvoir, et ça a été dit par le chef des islamistes, Ranouchi, et en se préparant pour les futures élections. Et pour en revenir à votre question, cette comparaison de la Tunisie, ça reste quand même une exception, parce que il y a des forces qui travaillent la société en profondeur. Mais il y a effectivement une fracture aujourd'hui, une fracture sociale en Tunisie, entre deux Tunisies, celle islamiste qui veut avoir sa revanche et prendre le pouvoir et instaurer un projet de société sur le tronc ferme qui n'a rien à voir avec la démocratie, et il y a cette Tunisie réformiste, moderniste, qui se bat tous les jours et est très vigilante parce que elle est consciente que transformer un sujet en citoyen, transformer une victime en acteur de sa société est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui en Tunisie. C'est pourquoi on se bat. Et je ne pense pas que, à l'extérieur, surtout avec les puissances occidentales amies, on ait conscience de ce débat. Et le débat est biaisé parce que il y a des intérêts. Il faut absolument contenir cette violence des djihadistes islamistes en mettant au pouvoir des islamistes modérés. Et on revient à ce cycle infernal qu'il faut absolument briser. Et les Tunisiens doivent se battre pour poursuivre ce chemin qui est très long. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est pas par excès de pessimisme que je disais en 2030, les islamistes seront toujours là et se battront pour avoir le pouvoir, parce que c'est du très long terme, et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas en un jour qu'on abat les dictatures.
Un petit mot, Michel Tereschenko.
Vous voyez, évidemment, là, ce dont on a parlé, ce ne sont pas des dictatures, je veux dire, au sens exactement, si vous voulez, ni de système totalitaire, ni de système tout à fait post-totalitaire, et la Tunisie, ce n'est pas la Corée du Nord.
Non.
On est, disons, dans des sociétés qui sont quand même en situation de transition. Les dictatures ne sont pas en transition. Il y a quand même, je pense, une distinction un peu qu'il faut quand même faire, oui, c'est ça. Parce que on n'est quand même pas dans le même type de régime. Les sociétés dictatoriales ne peuvent pas connaître la transition. Et il n'y a pas de dynamique possible. Les forces à l'œuvre sont là, mais elles ne peuvent pas s'exprimer. Et de ce point de vue-là, les dictatures sont peut-être moins nombreuses, évidemment, que les régimes qui sont dans des évolutions problématiques, confuses, difficiles, et où finalement, comment est-ce qu'ils ne pourraient pas en être ainsi ? Au fond, de quoi est-ce que l'on parle ? Tout ce qui vient d'être dit nous donne comme modèle, si vous voulez, d'une société démocratique. C'est une société qui constitue un véritable corps politique, où les individus sont des acteurs, à proprement parler, de la vie politique, où ils peuvent participer aux affaires publiques, où il y a une véritable participation. Donc, en fait, tout ce que l'on vient de dire, par exemple, s'agissant de la Tunisie, au fond, nous dégage, d'une certaine manière, un idéal, qui est un idéal d'une société politique vivante. Évidemment, vous pouvez vous poser la question, ou peut-être moi je me pose la question, mais dans quelle mesure est-ce que notre propre démocratie répond tout à fait à cet idéal d'une démocratie vivante dans laquelle les citoyens seraient des acteurs ou auraient le sentiment d'être des acteurs des politiques publiques avec un sentiment civique profond, le sens d'un engagement, d'une participation, si vous voulez, des citoyens à la vie nationale, à la vie politique, etc. Dans quelle mesure est-ce que ça nous renvoie pas ? C'est-à-dire, autrement dit, la crise, ou disons ces situations difficiles, enfin bon, qui travaillent de sociétés qui sont en marche quand même, et je pense que la marche est inéluctable, en effet, vers des sociétés de type démocratique, dégage une certaine forme d'idéal, effectivement, de ce que c'est qu'une véritable société politique, un véritable corps politique vivant, mais qui, évidemment, nous renvoie un petit peu à nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes tout à fait dans des sociétés où les citoyens sont des acteurs, ont le sentiment d'être des acteurs de la vie publique, alors même que, par exemple, je ne sais pas, ils se sentent en même temps, la politique a perdu énormément de pouvoir au regard des impératifs de la rationalité, des lois de l'économie, etc. Il y a une crise du politique en France aussi, il y a une crise du sentiment civique, une crise de la société politique dans son ensemble, et qui devrait aussi aussi nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Et on voit aujourd'hui les conséquences, effectivement, même en termes électoraux. Par exemple, je dis ça sans esprit polémique, mais le fait, par exemple, effectivement, qu'on ait un parti quand même plutôt d'extrême, etc., qui a les résultats électoraux que l'on a connus en portant, je ne sais pas, une dizaine de municipalités quand même relativement importantes, il y a 10 ans, si vous voulez, il y a 15 ans, mais vous aviez 100 000 personnes dans la rue. Jamais ce serait passé. Aujourd'hui, ça passe sans aucun... Alors on dit, bon, ça s'est banalisé, d'accord. Mais quand même, si vous voulez, il y a quelque chose de très... d'une espèce de banalisation où on accepte en quelque chose des choses que nous n'aurions jamais acceptées il y a 20 ou 30 ans. Ce sont quand même des partis qui posent au moins, si vous voulez, un certain nombre de problèmes par rapport à nos valeurs, par rapport à nos... Enfin bon, et moi je pense, si vous voulez, personnellement, hein, que la société française n'est pas une société véritablement libérale, hein, ni dans ses institutions, ni même dans sa pratique, et que c'est une société qui traverse une grave crise, et qui n'est pas simplement une crise sociale, qui est aussi une crise politique, une crise de conscience, une crise d'identité, etc., et dont nous voyons des effets qui se banalisent, qui ne choquent personne, et qui en d'autres temps ne seraient jamais véritablement passés. Donc autrement dit, moi je pense que nous devons avoir à l'égard de notre propre société une réelle vigilance. Le Monde a titré, il y a quelques jours, annonçant que les services de renseignement de l'État avaient libre accès, effectivement, à toutes les informations concernant nos communications téléphoniques et nos mails via les opérateurs téléphoniques. C'est quand même incroyable, je veux dire, si c'est pas une manière de porter atteinte à nos libertés fondamentales, aux libertés individuelles, est-ce que ça a dégagé de forts mouvements de protestation dans la société ? Pas du tout ! Personne n'a protesté, il n'y a pas eu 100 000 personnes dans la rue. Il y a franchement de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas ? Alors, c'est extrêmement inquiétant.
Justement, Michel Tereschenko, être acteur de la vie publique, ça demande un certain niveau d'éducation. Et au-delà, l'importance de développer un esprit critique. Et est-ce que finalement, on ne l'a pas perdu, cet esprit critique ? C'est cela que vous êtes en train de nous dire ?
Ah oui, oui, oui. Les pouvoirs ne font que d'une certaine manière ce qu'on les autorise à faire, fondamentalement. C'est-à-dire, on parle de système, il n'y a pas de système. Le système, c'est toujours des hommes qui le font. C'est pas un deus ex machina, c'est pas un dieu. Il y a pas de loi comme les lois de la physique. Les sociétés sont ce que les hommes en font, et pas autre chose, naturellement. Et les hommes politiques, vous savez, dans leur désir, en effet, de plaire et d'avoir les votes des citoyens, si vous mettez la pression, d'ailleurs, il suffit de mettre la pression pour que, de toute façon, ils reculent. Donc, il n'y a pas de pression. Donc, effectivement, je pense qu'il est très important qu'il y ait une vigilance organisée, structurée, se manifestant publiquement et qui n'accepte pas, si vous voulez, cette lente dérive vers ainsi une société de contrôle, une société de surveillance, etc., que nous acceptons en quelque sorte à notre insu, comme si c'était nécessaire, comme si ça allait de soi, etc. Et beaucoup d'aspects de nos sociétés pourraient faire l'objet de discussions à condition que nous soyons précisément des acteurs de la vie civile. Et donc la vigilance, en effet, je crois, est une vigilance absolument fondamentale. Et encore une fois, c'est ce que ces régimes nous renvoient. Ils nous renvoient d'une certaine manière l'image aussi, parfois, de notre propre docilité, de notre propre servilité, que nous acceptons des choses qui ne marchent que parce que nous les acceptons. Si nous les refusions, ça ne marcherait pas, ensemble, de la façon. Je dis pas ça, c'est ni de droite ni de gauche, ce que je dis, simplement. C'est simplement une question qu'il n'y a pas de société démocratique vivante sans le sentiment des individus d'être, d'une manière ou d'une autre, des acteurs réels de la vie publique. Et que c'est pas simplement la participation aux élections, une fois tous les 5 ans, qui se manifeste par des votes sanctions, qui constituent la véritable vitalité d'une société démocratique, libre, plurielle. Pour finir sur ce point, la question de la pluralité en France et le respect de la pluralité en France et de la pluralité des opinions religieuses, etc., est infiniment problématique. Hein.
C'est la fin de Géopolitique, enregistrée à Rennes dans le cadre du forum qu'organisait le quotidien Libération et dont RFI était partenaire. Merci à Swer Belhassen, présidente d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, ancienne directrice de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, auteur de 2 ouvrages, l'un coécrit avec Sophie Bessis, Habib Bourguiba, biographie en 2 volumes, et Femmes du Maghreb, l'enjeu, paru aux éditions Lattès, et Michel Tereschenko, philosophe et universitaire, auteur de « Du bon usage de la torture » ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, également un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, aux éditions La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Manu Poche à Rennes, Nathalie Laporte à Paris pour la réalisation et la technique. Samedi prochain, Géopolitique sera consacré à l'Afrique du Sud. À très bientôt.